carrefour d'opinion. Carrefour d'opinion est une émission de la radio Indamba qui donne l'opportunité aux gens de tous les horizons à présenter leurs opinions sur tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une bonne résolution pacifique du conflit burundais. Carrefour d'opinion, bâtissons le Burundi.
Vous avez sans doute reconnu l'indicatif. Place maintenant à votre émission hebdomadaire Carrefour d'opinion, à laquelle je vous donne la bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio Inzamba à Gatiakawe. Nous revenons aujourd'hui sur les dernières attaques des rebelles à Bubanza et à Cibitoki. Et nous partons bien évidemment de la dernière en date, celle qui a eu lieu la nuit du 16 au 17 novembre à Mabayi, en province de Cibitoki. L'objectif sera de savoir pourquoi les Burundais en sont arrivés aujourd'hui à prendre les armes pour combattre le régime en place au Burundi. Est-ce que la voie armée est la meilleure pour trouver des solutions à la crise burundaise? Que faut-il faire finalement pour amener la paix et la sécurité au Burundi sans verser le sang? Nous allons poser ces questions à Pierre Claver Nahimana, le président du parti Savonia Prodebou, à méthode Ndikumasabo, un juriste et ancien officier de l'armée burundaise, à Emery Pacifique Iguianeza, le président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, et à Frédéric Mavuyimvira, ancien vice-président de la République du Burundi et vice-président actuel de la coalition de l'opposition politique burundaise Sefor Arusha. L'émission Carrefour d'opinion sera réalisée par Réverier Bazikamwe et mise en onde par Théodomir Manirambona. Au micro, comme d'habitude, c'est Jean-Georges Kibogora. Dans quelques poussières de seconde, l'émission Grandeur Nature.
Inzamba.
Bienvenue encore une fois dans cette émission Carrefour d'opinion. Je vous le disais tout à l'heure, deux attaques armées viennent d'être organisées contre le régime de Bujumbura dans une période de moins d'un mois sur le territoire burundais. L'une s'est passée à Musigati à Bubanza le 22 octobre, l'autre les dates du 16 et 17 novembre de cette année 2019. Pour cette attaque, plus de 100 hommes de l'armée burundaise ont été attaqués sur leur position militaire à Marura dans la réserve naturelle de la Kibira du côté de Mabayi dans la province de Cibitoki la nuit du 16 au 17 novembre. À la fin de l'attaque, plus d'une dizaine de militaires ont été tués et plus de 60 sont restés introuvables. Selon les informations détenues par la radio Inzamba arrêtée à Kawe en provenance de l'état-major général de l'armée burundaise, le major Ngomira Kiza, qui dirigeait la position militaire, a trouvé la mort dans ces affrontements. Emmanuel Naishimi.
Depuis cette attaque des hommes armés dans la nuit de ce samedi dans la réserve naturelle de la Kibira, la radio Inzamba détient les informations en provenance de l'état-major général de l'armée burundaise, particulièrement au bataillon 412 qui affronte actuellement ses assaillants. Plus de 100 militaires présents à la position à Marura dans cette forêt demandent toujours le renfort au commandant de ce bataillon, lieutenant-colonel Nyabenda, surnommé Mababa, pour pouvoir faire face à cette rébellion. Ce dernier a refusé, disant qu'il s'agit d'un groupe de bandits. Le commissaire Montfort, c'est lui qui a alerté depuis 6h du matin. Et l'un parmi ces militaires sur terrain indique que parmi 115 militaires présents sur cette position de Marura, seuls 5 sont sortis vivants après cette attaque.
Arrivés dans cette forêt de la Kibira, nous avons échangé de coups avec ces hommes armés. Mais par après, ils nous ont encerclés. Jusqu'à maintenant, ceux qui ont répondu à l'appel sont au nombre de 5 sur les 115 qui ont entré dans cette forêt. Ce qui est triste pour nous, c'est que les hauts gradés ne peuvent pas poser le pied ici. Ceux qui viennent ici sont des officiers subalternes. Ces derniers n'osaient pas entrer dans la forêt de la Kibira, du Restandora, dans Okinanyana. Et cela nous rattriste car nos supérieurs nient toujours la présence des groupes d'armée. Et c'est pourquoi on demande toujours le renfort, mais
Ce militaire déplore comment ces officiers de l'armée burundaise, et particulièrement ceux du parti au pouvoir CNDD-FDD, propagent des propos mensongers selon lesquels il n'y a pas de rébellion burundaise, qu'il s'agit des étrangers qui attaquent le Burundi.
Les responsables à l'état-major de l'armée burundaise ne s'entendent pas, nous en sommes au courant. Qu'ils viennent, qu'on se rende nous tous sur terrain. Ce sont les hommes de troupes qui périssent aujourd'hui dans ces combats. Ces généraux et ces colonels qui cessent de se positionner sur la route Andorra. Nous savons qu'il n'y a la présence de ces mouvements armés au Burundi. Ils évitent de débloquer les indemnités d'opération. Combat avec des rebelles burundais ici dans la Kibira, c'est vrai, nous le confirmons.
D'autres informations disent que la position militaire de Marura dans la Kibira était composée au total de 112 hommes, 20 parmi eux étaient en congé, 15 militaires sont rentrés sains et saufs, 8 ont été blessés. Les sources recueillies à l'état-major de l'armée burundaise, elles, confirment que Major Ngomirakiza Révérien, surnommé Musogoto, qui dirigeait la position militaire, a été retrouvé mort. 69 autres militaires restent introuvables et jusqu'à présent.
Aujourd'hui, si l'armée burundaise connaît des attaques, cela s'explique par le processus de négociation qui n'a jamais abouti depuis 2015. C'est l'analyse de méthode Nikuma Sabo, ancien officier de l'armée burundaise. Selon lui, le gouvernement burundais et ses acolytes ont tort d'accuser les pays voisins parce que ce même gouvernement sait bien qu'il y a des mouvements rebelles burundais qui se sont déjà déclarés.
Si aujourd'hui, les groupes rebelles attaquent, c'est parce que, à mon avis, un, sur le plan juridique et politique, les revendications qu'ils avaient en 2015 persistent. Vous savez que parmi ces revendications, c'est notamment le respect de l'accord de paix d'Arusha que le pouvoir en place aujourd'hui est accusé d'avoir violé et de continuer à violer ou sinon de le changer purement et simplement. Ça, c'est à mon avis le premier argument. Le deuxième argument, c'est un argument d'ordre technique. Si ces groupes lancent des attaques aujourd'hui, c'est que sur le plan technique, ils ont atteint une certaine maturité, une semi-maturité, et que donc ils voient que c'est possible d'attaquer des positions de l'armée burundaise, ou à tout le moins de tester là où il pourrait y avoir des failles. Voilà à mon avis, ce sont les deux raisons qui, à supposer que ce soit des groupes armés rebelles qui attaquaient, qui justifieraient de telles attaques.
Pouvez-vous fonder les accusations des gouvernements aux voisins?
Le gouvernement burundais accuse justement le gouvernement rwandais d'être l'auteur de ces attaques. Moi, ça ne me convainc pas du tout, car dans l'art de la guerre ou des combats, on lance une attaque avec un gain stratégique. Or, je ne vois pas quel serait le gain pour le gouvernement rwandais. Si l'attaque avait été dirigée contre des groupes rebelles qui menacent d'attaquer le Rwanda, c'est qu'il est FDLR. Là, je comprendrais que le gouvernement rwandais puisse attaquer ces groupes. Bon, il ne l'assumerait pas. Le gouvernement rwandais, notre Rwandais, n'assumerait pas de voir attaquer un groupe rebelle sur le territoire d'un autre État. Un autre argument qui me pousse à ne pas penser au Rwanda, c'est que même s'il est vrai qu'il y a des tensions entre les deux pays, pour qu'un pays attaque un autre, il faut vraiment qu'ils aient atteint un point de rupture irréversible, ce qui ne me semble pas être le cas. Et en plus, dans cette hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse d'un pays qui attaque un autre, généralement, le pays qui attaque assume, ce qui, de nouveau, n'est pas le cas.
Il y a eu un processus de négociation entre les protagonistes politiques burundais. Pensez-vous que la voie de la guerre aujourd'hui est à privilégier?
Vous savez quoi, la voie de la guerre n'est jamais la meilleure option. Hein. Je pense que les gens se décident à prendre les armes comme dernier recours. Et cela me rappelle une disposition du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelqu'un de décédé lui-même, via les médias qui relayaient un peu ses revendications, mettait en avant, et cette disposition dit aussi, il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Et donc, dans cette logique, à mon avis, il est important, il est primordial d'abord la voie de résolution des conflits. Et pour revenir au cas du Burundi, vous savez que pas mal de groupes d'opposition, si je parle d'opposition politique, ont toujours demandé au gouvernement burundais des négociations. Il a refusé catégoriquement. Bon, les groupes armés eux-mêmes, ils ont formulé des revendications. Le gouvernement y a opposé une fin de non-recevoir. Et donc, finalement, je pense que la suite normale d'un tel refus, ce sont les armes. Ce qui ne signifie pas que je soutiens cette voie, mais moi j'essaie d'interpréter les événements tels qu'ils se passent. Et si, disons, les tensions s'intensifient, si la guerre éclate ouvertement, je pense que ces groupes rebelles, s'ils ont la possibilité de prendre le pays, ils le prennent comme le fait à gauche et à droite, ils n'ont pas cette possibilité, à tout le moins, ils vont revendiquer de rentrer, d'intégrer l'armée, comme cela a déjà été le cas dans le passé. Donc tous les scénarios sont ouverts en fonction de l'évolution de la situation. Mais pour résumer, il est préférable que les problèmes dans un pays soient réglés pacifiquement et qu'on ne se retrouve pas dans la nécessité de l'obligation de prendre les armes, ce qui arrive malheureusement quand les partis sont la souveraine. Écoutez, moi franchement, je dirais que la situation est explosive. Il y a plusieurs facteurs qui, à mon avis, montrent que l'avenir n'est pas très clair. Politiquement déjà, il y a ces élections qui sont programmées pour l'année prochaine. Or, les participants potentiels ne sont pas d'accord sur l'organisation de ces élections. J'ai le sentiment que FDD va faire le forcing éventuellement pour obtenir un nouveau mandat. Et là déjà, à l'égard de ce système, il me semble que les règles pour désigner le successeur de Pierre Nkurunziza ne sont pas encore convenu entre, disons, au sein du parti. Et donc, là, c'est déjà le premier foyer de tension, je dirais. De l'autre côté, les partis politiques d'opposition qui essaient justement de se positionner sont en quelque sorte bloqués. Je pense qu'ils montent des stratégies pour que les élections soient libres et transparentes. Et à côté de ces facteurs que j'appellerais politiques, il y a ces tensions, ces premières escarmouches militaires qui se déclarent. Et donc, franchement, d'ici l'année prochaine, d'ici la période prévue pour les élections, bien des choses peuvent changer dans le pays. Et j'allais oublier de vous dire que l'armée qu'on appelle souvent la Grande Mouette, je pense qu'à l'intérieur, au sein même de l'armée, pas même dans CSBM, on pourrait aussi parler de l'armée ici du CNDD, SPD, je pense qu'il doit y avoir des frustrations lesquelles peuvent pousser les uns et les autres à ne pas soutenir Nkurunziza ou à tout le moins à boycotter le système de l'intérieur.
Pour Pierre Claver Nahimana, le président du Parti Savanier Frodebout, combattre les groupes armés ne suffit pas. Le gouvernement de la République du Burundi devrait initier une politique de réconciliation nationale entre les Burundais de l'intérieur et ceux qui sont à l'étranger en exil pour une solution durable.
Nous tous, nous avons entendu qu'il y a eu une attaque de groupes armés dans la province de Banza, qui ont nécessité l'intervention des forces armées. Lorsque des forces armées d'un pays sont obligées d'intervenir, ça veut dire que le cas est très grave. Et c'est l'erreur, ils sont intervenus, ils ont neutralisé ces groupes, mais est-ce que ça veut dire que cela a été terminé? Parce que, d'après ce que nous avons compris, ces groupes seraient venus de l'extérieur. Alors que nous savons que à l'extérieur du pays, il y a beaucoup de citoyens burundais qui ont fui le pays, dont certains, je dis bien certains, disent qu'ils veulent combattre le gouvernement du Burundi. est-ce qu'ils ont déjà disparu? Donc nous revenons dans la question de réconciliation nationale. Lorsque un pays possède des fils de la nation qui ont fui le pays, qui sont restés du pays et qui voudraient revenir dans le pays et que ça devient très difficile, vous héritez des problèmes de ce genre. Ce n'est pas au Burundi seulement qu'on voit ce genre de problème, on le voit ailleurs. C'est passé la fois dernière, nous disons quand même que c'est un cas qui est très préoccupant pour notre pays. Parce que nous ne sommes pas convaincus que ceux qui sont à l'extérieur, nos frères qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils ont abandonné cette visée de combattre le Burundi ou le gouvernement du Burundi. Par là, nous ne sommes pas sûrs. Ça veut dire que nous sommes dans une situation qui est complexe, qui revient sur la question de réconciliation nationale. Ça veut dire que le pays doit tout faire, nous tous, nous devons tout faire pour que cette question de réconciliation nationale entre tous les Burundais, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'intérieur du pays, quel que soit leur niveau politique, pour qu'il y ait une réconciliation véritable, pour que jamais il n'y ait plus quelqu'un qui soit à l'extérieur, qui soit obligé de dire « je vais combattre le pays ».
Les affrontements entre l'armée burundaise et les mouvements rebelles burundais sont le résultat du conflit qui n'a pas encore trouvé une solution. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire regrette que ces affrontements causent la mort des Burundais au profit d'une poignée de personnes qui cultivent encore des divisions entre les Burundais. Emery Pacifique Iguaneza, le président de ce mouvement, appelle à la conscience de tout un chacun pour surmonter ces divisions afin de s'atteler à la réconciliation du Burundi.
Comme on l'avons toujours dit, nous sommes pour une solution pacifique au conflit burundais. Parce que le conflit burundais est politique et les politiciens devraient vraiment s'entendre. Mais maintenant, nous sommes face à une situation où il y a une partie de la population, très petite partie des dirigeants du Burundi qui ne veulent pas vraiment s'entendre avec les autres, qui ont décidé d'engager le Burundi dans une situation où de peine et de haine, là où vraiment le pays maintenant est le dernier pays le plus pauvre dans le monde. Et les Burundais sont engloutis par cette pauvreté et ils n'ont pas vraiment une meilleure façon de se révolter contre cette partie de la population qui se dit le gouvernement qui les a engloutis. Alors ce que nous demandons aux Burundais, c'est d'être vraiment très vigilants parce que il y a une façon maintenant que le gouvernement est en train d'utiliser pour diviser le Burundi. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de blocs de Burundais qui sont en train de s'entretuer, qui s'opposent. C'est seulement le gouvernement et le reste de la population du Burundi. Alors ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'ils se méfient de ces messages qui émanent du gouvernement qui ont une intention de diviser le Burundi dans les lignes ethniques. Nous avons entendu par exemple qu'il y a un message qui dit que c'est le Rwanda qui a attaqué le Burundi ou que ceux qui ont attaqué sont enfouis vers le Rwanda. Nous comprenons son langage. Nous comprenons qu'il veut dire que, écoute, voilà, il faut être exact, vous les Hutus sont les Tutsis qui ont attaqué, mais nous demandons tous les Burundais d'être unis comme un seul homme et de dire non, de se lever contre ce gouvernement qui le tue, qui pille le pays et pour qu'il puisse en fait limiter les dégâts. Nous demandons aussi à ceux qui attaquent vraiment d'utiliser de leur tact et aussi aux militaires parce qu'ils savent très bien leur métier pour qu'ils puissent limiter les dégâts. Nous sommes au courant que si les Burundais de deux côtés, des assaillants, des attaquants ou des militaires du gouvernement, si un Burundais meurt, c'est un fils du pays qui pourrait être utilisé dans une autre façon si le pays était pacifique. Alors nous demandons à tous ces Burundais vraiment de se méfier de ces messages, de cette intention du gouvernement de diviser le Burundi.
Une opinion estime que cela est allé jusqu'à ce niveau par manque du dialogue du gouvernement du Burundi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous le savez très bien, nous, au MAP Burundi Buhire, nous avons même proposé un moyen de sortie de cette crise politique, mais le gouvernement n'a pas voulu écouter. Le gouvernement a décidé de refuser toutes les tentatives de négociation qui ont été facilitées par la ont précédé celui du CNB ont voulu très bien négocier avec les rebelles. Et c'est pour cette raison même qu'ils sont au pouvoir maintenant. Je pense qu'il faut qu'ils apprennent du passé et qu'ils comprennent que seule la paix va sauver le Burundi.
Que pourriez-vous dire à l'armée aujourd'hui qui fait face à une rébellion?
Cette armée burundaise a une bonne leçon à apprendre. Premièrement, vous savez très bien que l'armée burundaise d'avant avait lutté contre les rebelles qui attaquaient aussi. Ces rebelles sont du CNDD. Et vous savez très bien qu'une bonne partie de cette armée, maintenant, n'a pas d'emploi. Et ils ont été démobilisés. Et puis c'était la fin de la vie professionnelle. Ces militaires d'aujourd'hui qui sont en train de résister contre d'autres Burundais, qui sont en train de tuer avec ces derniers, devraient savoir que dans le monde moderne, un militaire doit être aussi un homme qui est informé politiquement, qui peut dire non s'il le faut, qui peut dire non au gouvernement si on les envoie d'aller tuer des Burundais. Comme ça, alors, ils pourront renvoyer le politicien à ce qu'ils négocient avec les opposants.
Et du côté des rebelles?
C'est le même message. Quand même, il faut noter une chose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu des attaques à la population. Donc, c'est une chose positive du côté des rebelles. Mais même ces militaires, ces positions militaires, sont des positions des militaires qui sont des Burundais, des amis, des frères. Alors, pour cela, nous demandons qu'ils utilisent d'autres tactiques pour en fait qu'ils puissent même communiquer avec ces militaires pour aboutir à l'objectif sans toutefois tuer les gens.
La voie armée n'est pas la meilleure pour résoudre les conflits. Mais il y a des fois où l'on se sent obligé de recourir à ça. Point de vue de Frédéric Bamvunuvila, ancien vice-président de la République de Burundi et vice-président actuel de la coalition de l'opposition politique burundaise, c'est fort Arusha. Il poursuit en disant que c'est le même régime de Bujumbura qui a créé les rébellions qui le combattent aujourd'hui pour avoir refusé de négocier la paix avec ses opposants. Frédéric Bamvunuvila appelle le gouvernement burundais de se ressaisir et d'aller à la table des négociations pour éviter un bain de sang.
En fait, quand je compare ce qui s'est passé en 1993, après la victoire de Ndadaye et après son assassinat, il y a eu des jeunes qui sont partis dans la guérilla pour réhabiliter la démocratie. Ils sont allés là-bas, nous sommes en 1993 et 2003. Donc, 10 ans plus tard, ils sont revenus et qu'est-ce qu'on constate? Ils ont intégré les institutions de l'État, mais ils ont gagné les élections en 2005. De 2005 à 2019, ça fait 14 ans, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'ils avaient l'objectif de réhabiliter la démocratie? Je crois que non, parce que les faits montrent juste le contraire. Et ce qu'il y a comme problème, ils avaient toujours dit qu'on, visiblement, ils ont tout fait, ils sont arrivés au sommet, qu'il n'y aura plus jamais des attaques du genre, qu'il n'y aura plus de rébellion, tout ça peut pas se faire. Mais ils avaient oublié que la même cause produit les mêmes effets. Il y a eu beaucoup d'injustices, un président de la République a été tué, la démocratie bafouée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate des gens tués, des gens emprisonnés, on constate le pays qui est vandalisé pratiquement, on constate l'intolérance au sein des partis politiques, on constate qu'en réalité, la jeunesse n'a plus d'avenir, beaucoup de chômage, la famine, donc il n'y a plus d'espoir dans le pays. Quelle est l'autre solution? L'autre solution, bien entendu, c'est de recourir à la violence. Quand on est poussé au suicide, les gens se suicident. Quand on est poussé à choisir entre deux morts, on peut s'en choisir une. Et je crois que de telles attaques, c'est un message à l'endroit du pouvoir pour lui dire, nous en avons assez, vous ne voulez pas gérer le pays, vous ne voulez pas comprendre qu'on avait confiance en vous. Vous ne voulez pas accepter que vous soyez nos dirigeants. Vous avez fait d'autres options vous avez opté pour vous-même, pour vos ventres, pour vos familles, pour vos militants, uniquement que ça, et le pays, aujourd'hui, est laissé pour compte. Maintenant, laissez-nous nous charger de la vie de notre propre pays, parce que nous avons compris ce que nous cherchons. Voilà la signification, d'un tel comportement, et je vous souhaite de suivre ça.
Vous venez de soulever toute une série de problèmes, toute une série de difficultés qui ont été posées par ce régime en place à Bujumbura. Est-ce que vous pensez que la voie armée, c'est la voie la meilleure pour solutionner ces problèmes?
Je crois que de par l'histoire, il a été démontré que la voie armée n'est pas la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, les armes utilisées, d'où viennent-elles? Peut-être pour les rébellions, mais pour les rébellions, des fois, ce sont des armes qui proviennent même des militaires en fonction. L'expérience l'a montré. Deux, les armes utilisées par les militaires eux-mêmes pour combattre leurs frères rebelles, et ce sont des armes qui ont été achetées par la population. Maintenant, est-ce que c'est logique que la population achète des armes pour se combattre? Voilà, il se trouve le rite. Les armes ne sont pas là pour se combattre. Les armes sont achetées pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi doit être extérieur, parce que l'ennemi intérieur n'existe pas. Lorsque l'ennemi intérieur existe, c'est toi qui le fabriques. Et comment tu fabriques l'ennemi? Tout simplement en refusant à donner les droits à ce citoyen qui le réclame de toi. Toi qui t'es chargé d'être au-dessus de l'État pour le gérer et gérer les problèmes des citoyens. Si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que tu crées justement une rébellion. Donc tu crées un ennemi. Donc la seule façon d'arrêter de créer l'ennemi, c'est de se comporter conformément à la Constitution, conformément à la loi, et respecter les citoyens et l'écouter. Parce que tu as la mission de l'écouter. Et il n'y a pas de problème sans solution. Il suffit de la chercher, et elle est quelque part, mais toi qui te dis, je ne la cherche pas, je n'entends pas ce citoyen, j'ai les armes, j'ai l'armée, j'ai la police, j'ai la documentation. Donc, je suis capable d'écraser n'importe qui ose lever la tête. Voilà ta position. Et si tu penses comme cela, tu crées les ennemis du pays. C'est toi qui te crées tes propres ennemis. Donc, tu es l'ennemi de toi-même. Donc, voilà ce qu'il faut tirer comme conclusion. Donc, la voie n'est pas la meilleure, parce qu'avec la guerre, les Burundais sont tués, les Burundais sont groupés dans des zones de groupement, ils attrapent diverses maladies, ils sont malheureux, ils font des rondes de nuit. Donc, il y a une des conséquences très graves à cette prise d'armes. Mais malheureusement, c'est encore une fois le pouvoir qui crée les rébellions. Ce n'est pas la rébellion qui se crée et que Nitio. C'est évidemment le pouvoir qui crée des rébellions. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, justement, j'allais vous poser la question. Quand il y a recours aux armes, il y a le sang qui est versé, que ce soit du côté des rebelles, que ce soit du côté des militaires loyaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour éviter un bain de sang? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix et la sécurité reviennent au Burundi?
Partout, il y a eu des confrontations militaires. La seule solution, avant et après, c'est le dialogue. Si vous dialoguez avant, et alors là, vous évitez ces bains de sang, vous évitez ces voies de suicide, vous évitez ces voies qui entraînent des hécatombes. Et dans ces conditions, ça veut dire que vous avez compris, vous aimez le pays, vous aimez vos étoiles. Mais le cas que nous auquel nous avons affaire maintenant, ce sont des individus qui, avec l'expérience, nous montrent qu'ils n'aiment pas leur peuple, ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur famille, ils ne s'aiment même pas. Parce que s'ils avaient un sentiment positif envers eux-mêmes, envers les parents, envers les amis, envers le pays, ils ne se limiteraient pas à leur propre ego. Non, ils devraient penser à l'avenir du pays. Et alors là, ils l'acceptent sacrifié en disant le pouvoir que nous avons n'est pas notre pouvoir, le pouvoir qui appartient au peuple, acceptons que ce peuple quand même nous pose des questions et que nous répondions aux questions de façon correcte, de façon réelle, et non pas de façon tronquée. C'est ça ce qui aurait dû être fait, c'est la négociation. Maintenant, si vous acceptez que les gens prennent les armes, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, votre pouvoir diminue. Et si à partir du moment où vous constatez que votre pouvoir n'est plus rien, que vous commencez à comprendre qu'il fallait négocier, et vous appelez les rebelles en disant « venez négocier ». Ils vous diront « on ne négociera pas avec vous, monsieur, d'abord on va négocier avec le reste après ». Voilà ce qui risque de se produire. Donc la solution, ce sont les négociations. Nkurunziza a eu l'occasion. Il a été sollicité par les Burundais, il a été sollicité par les Nations Unies, il a été sollicité par l'Union africaine, il a été sollicité par l'East African Community, il a été sollicité par le monde entier, par l'Union européenne, mais il a dit « je ne veux pas entendre parler de cette histoire ». Que celui qui se sent morveux, qui se mouche, moi j'ai le pouvoir, je dois l'exercer à divin dans le pouvoir. Voilà, nous sommes dans une phase, nous avons dépassé la phase A, nous sommes dans la phase B et hier, demain, on risque d'entrer dans la phase 3, donc la phase C, où on va constater que finalement, le pouvoir n'est plus capable de négocier et que le Burundi va être dans une situation d'inconfort.
Et bien voilà, c'est par là que nous allons terminer notre émission Carrefour d'Opinion. Les attaques des rebelles contre le régime de Bujumbura sont le résultat de l'entêtement de ce régime à bouder les négociations en vue d'une paix durable au Burundi. C'est le point de rencontre de nos invités pour justifier les dernières attaques à Bubanza et à Cibitoki. Le gouvernement burundais devrait en tirer une leçon et accepter de dialoguer avec ses opposants pour l'intérêt supérieur de tout le peuple burundais. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous nos invités, Pierre Claver, Nahimana, le président du Parti Savonia Frodebou, Emery Pacifique Ilianeza, le président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, Méthode Ndikumasabo, ancien officier de l'armée burundaise, et Frédéric Bangouinvira, ancien vice-président de la République du Burundi et président actuel de la coalition de l'opposition politique burundaise Sefor Arusha. Merci à Réverier Bazikame pour la réalisation de cette émission, à Théodomir Manulambona pour la bonne collaboration technique, Jean-Georges Kimogura au micro, je vous dis merci pour votre fidélité à la radio Inzamba, Agathe Akawe, la radio que vous avez choisie. Au revoir et à la prochaine.
Carrefour d'opinion. Carrefour d'opinion est une émission de la radio Inzamba qui donne l'opportunité aux gens de tous les horizons à présenter leurs opinions sur tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une bonne résolution pacifique du conflit burundais. Carrefour d'opinion, bâtissons le Burundi.